Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Les grands débats du matin et avant les grands débats, dans un instant, Elisabeth Lévy, Françoise Degoy, vos appels au 0826-300-301, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on va aborder. Comme chaque mercredi, donc avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès.
Bonjour Patrick.
Le comparateur des programmes de la présidentielle. Et ce matin, eh bien, on va s'intéresser à l'éducation. L'éducation dans la campagne, pour l'instant, finalement, il n'y a pas beaucoup de propositions, disons, originales hein, sur l'éducation dans cette campagne.
Non, c'est sûr, Patrick. En réalité, à part proposer de doubler les salaires des professeurs, comme Anne Hidalgo, ou d'augmenter les salaires de 15%, comme Jean-Luc Mélenchon, de créer des centres d'éducation fermés comme Marine Le Pen, ou supprimer Parcoursup comme Anne Hidalgo, ou revenir sur les bacs L, S et ES, et la blouse aux primaires comme Éric Zemmour et par exemple comme Christiane Taubira, d'appliquer la carte scolaire au privé. Il n'y a pas tellement de choses très révolutionnaires hein, dans les propositions sur l'éducation. Juste une piste chez Valérie Pécresse qui propose de créer des nouvelles écoles, des écoles publiques, mais sous contrat, avec plus de liberté pour recruter les équipes, etc. Mais ça concernerait seulement 10% des écoles. Donc on voit qu'aucun candidat ne remet vraiment en question à ce stade le quasi-monopole de l'éducation nationale, ce qui est très étonnant vu les résultats de la France en éducation.
Oui, et certains bruits circulent avec insistance. Hein, le président de la République arriverait dans la campagne, donc dans quelques jours, hein, avec des propositions très disruptives sur l'éducation.
Oui, on se souvient de ce qu'il avait dit à Marseille. Hein, et puis déjà, il y a des bruits qui circulent. On parle d'autonomie des directeurs d'école, de micro-collèges, de micro-lycées, d'augmentation des rémunérations des professeurs contre davantage de présence en classe, de la suppression du CAPES, de la fin de l'emploi à vie des professeurs. Hein, c'est ça qui a filtré pour l'instant du futur programme. Et si c'est vraiment ça qui figure dans le programme, eh bien, clairement, c'est du lourd.
Oui, parce qu'on dit souvent que nous sommes mal classés, hein, que la France a décroché en éducation, notamment sur les classements PISA.
Oui, la réalité, clairement, hein, elle est très, très préoccupante parce qu'on a eu des résultats de la journée citoyenneté et défense et ces résultats sont mauvais. Hein. Un jeune sur 20 est illettré en France. Hein, donc ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation majeur. Et puis, dans les classements PISA, on sait que la France n'est que 23e en lecture sur 82, 25e en mathématiques et en sciences. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes résultats entre public et privé. Par exemple, sur les évaluations de 2019 en CM1, bien, par exemple, dans le public, les élèves maîtrisaient le français qu'à 75,5%, alors que dans le privé, c'est plus de 89%. Donc, on voit qu'il y a des écarts énormes entre public et privé sur les résultats.
C'est ça. Dans le modèle de l'école privée sous contrat, donc ce modèle hein, de l'école privée sous contrat pourrait être peut-être l'avenir de l'éducation en France, alors si je vous suis là.
Bah clairement, hein, sortir du statut, embaucher sous contrat, permettre aux proviseurs de choisir leurs équipes pédagogiques. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Hein, faire sauter une règle obsolète qui n'est même pas dans la loi, qui est dite du 80-20. Cette règle, elle veut dire, Patrick, qu'il n'y a que 20% des élèves d'une classe d'âge qui peuvent aller dans le privé pour leur enseignement. Hein. Donc ça veut dire que, clairement, si on veut permettre plus de diversité dans l'enseignement, si on veut permettre que les parents puissent choisir entre plusieurs types d'écoles, eh bien, il va falloir faire sauter cette règle. Sinon, on va continuer à faire des grands débats sans que véritablement rien ne bouge. Et la diversité, la concurrence, la pluralité d'offres d'enseignement, ben c'est ça qui fait que les pays, notamment du nord de l'Europe, ont des meilleurs résultats en éducation que nous, et notamment dans les classements PISA.
Oui, merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier donc pour ce comparateur et ces idées qui pourraient venir. Hein, et donc peut-être que dans la dernière ligne droite de la campagne, on parlera justement d'éducation. Je rappelle aussi votre livre.
Il faut l'espérer.
Il faut l'espérer. Le vrai état de la France qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Et chaque semaine, donc, ce comparateur des programmes de la présidentielle qui est à réécouter hein, donc, en podcast sur Sud Radio. Merci.
Et donc, quel avenir hein, pour l'avenir de nos enfants? 0826-300-300. Oui. Vous voulez réagir peut-être sur les écoles, les enseignants, la place sur les discriminations, l'écologie, voilà, 0826, on vous attend au standard.
Oui, ça c'est vrai. Ce que disait Agnès Verdier-Molinier à l'instant, Françoise Degoy, Elisabeth Lévy, vous en avez entendu parler aussi, quoi, hein, de cette possibilité d'entrer en campagne d'Emmanuel Macron avec des propositions qui seraient assez, j'allais dire, fracassantes, entre guillemets. Quoi.
Oui, il va, parce que... Pardon, bonjour Elisabeth. Ouais. Excellent édito
bonjour
ce matin
cher,
sur ADI.
Bonjour, cher François.
Que j'aurais signé dès demain, vraiment.
Bon, très bien.
Mais,
vous n'avez qu'à les faire maintenant.
D'accord. On aime bien ce qu'on gâte.
Je vous laisse entre vous, je vous sers un petit thé
et
puis tout va bien.
Super, hein, et voilà, on reste avec Cécile entre filles, on a des trucs à se raconter.
Voilà.
Je voulais, alors on annonce des mesures disruptives sur l'éducation, on annonce aussi des mesures disruptives sur la réforme constitutionnelle, vous voyez, Emmanuel. En fait, la réalité, c'est qu'il veut faire en 5 semaines ce qu'il n'a pas fait sur un long parcours du combattant de 2 mois, parce que il est bien facile de dire que tous les présidents font ça. Ça n'est pas vrai. Le seul qui a fait ça jusqu'au dernier moment, c'est François Mitterrand en 88, à 1 mois du premier tour. Emmanuel Macron n'en sera pas loin, puisque de toute façon, la Saint-Glinglin, ça s'arrête le 4 mars. Donc voilà, il sera quasiment à 1 mois de la présidentielle. Tous les autres se sont déclarés 2 mois et demi avant, que ce soit Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, donc ou Valéry Giscard d'Estaing. Il pousse le bouchon jusqu'au bout. Il va compenser avec des meetings gigantesques, avec probablement
j'avais compris que non, au contraire, très peu de meetings,
non,
finalement.
Écoutez, alors c'est pour ça que je suis assez
Est-ce
prudente.
Est-ce que c'est notre projet ?
Ouais, alors je suis assez prudente sur tout ce qui circule, mais parce qu'il y a beaucoup de visions, je pense, qui s'affrontent dans l'équipe de campagne. A priori, on est sur 4 ou 5 énormes meetings, des propositions disruptives sur l'éducation et également sur la constituante. Il serait capable de piquer la constituante à Mélenchon, hein, pour être...
Ah bon ?
Mais
enfin, remanié
par lui pour être le président qui change la Constitution.
Elisabeth Lévy.
Non, mais alors moi, je vais pas revenir sur Emmanuel Macron, puisque Françoise a, je pense, fait un bon
diagnostic.
Panorama des bruits. Non, je voudrais revenir sur la chronique d'Agnès Verdier-Molinier. Alors c'est très bien, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais là où elle a raison, si vous voulez, c'est que c'est un problème qui devrait obséder les candidats. Mais moi, je crois pas que le problème aujourd'hui, elle a raison aussi de dire que moi, quand j'étais petite, je me rappelle qu'on nous disait « si tu travailles pas bien, tu iras dans le privé ». D'accord ? Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est « si tu fous rien, tu resteras dans le public, tu resteras à l'éducation nationale ». Et ça, c'est terrible. Mais je pense que l'urgence, c'est pas la pluralité des offres. L'urgence, si vous voulez, c'est de remettre les savoirs fondamentaux à l'école. Elle l'a dit à la journée citoyenne, on s'est rendu compte que elle a dit combien ? 1 élève sur 5 ? Sur 10 ? Un jeune sur 10 ? Je crois. Enfin, un chiffre énorme. Était illettré ? Ça veut dire, si vous voulez, qu'avant...
Un sur 20,
c'est énorme, énorme.
Avant
de sophistiquer les offres, eh bien, il me semble que ça, c'est une urgence absolue, c'est de remettre les savoirs fondamentaux, donc de remettre de la verticalité, si vous voulez, et pas de multiplier les filières, les méthodes anciennes, à mon avis, pour les apprentissages de base, elles sont très bien. Je crois que c'est ce que les parents demandent, en fait.
Je suis d'accord avec ils. Décidément, aujourd'hui, c'est la concorde nationale. Je suis absolument d'accord. Je pense que la sophistication, en plus perce, tout le monde s'y perd, parce que entre la somme des réformes depuis 10 ans, je veux dire, parents d'élèves, c'est d'une complexité. Il faut avoir fait Bac+5 pour être parent d'élèves, quoi. Plus la pandémie au milieu, comprendre les protocoles. Je vous dis pas, hein, tout le monde est à Bac+10 maintenant. Donc, il faut revenir véritablement au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est comment on apprend à lire, à écrire, à maîtriser le langage, à maîtriser
à
la grandeur
et à comment on apprend à réfléchir
et
par soi-même.
Et à être un citoyen dans cette République, c'est ça en fait, la chose que l'on demande.
Avoir effectivement à sujet des fondamentaux et peut-être revoir aussi l'éducation, les cours, quoi, non ? Il y a sans doute aussi des réformes à faire, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a très peu de codage, mais on continue de faire du dessin ou d'avoir des cours de musique où on n'apprend pas grand-chose ? Est-ce qu'il ne faut pas revoir
Patrick,
un petit peu les choses ?
Ah mais moi je ne suis pas d'accord avec
Patrick, vous n'allez pas supprimer supprimer les cours de dessin et de musique. Il faudrait au contraire.
Oui, oui. Et alors, et les cours, par exemple, pour compter, pour sur l'économie, d'avoir en fait un minimum, d'avoir en fait aujourd'hui un minimum en fait sur l'éducation en fait numérique, d'avoir en fait du codage qui est en fait complètement utile.
Je vais vous dire un truc sur l'éducation numérique.
Pourquoi ça, on ne le reverrait pas?
Non, je vais vous dire un truc sur l'éducation numérique. C'est la seule chose qu'ils apprennent tout seuls. Prenez n'importe quel môme, excusez-moi, il sait se servir de ça très facilement.
Non, c'est faux, Elisabeth. Il sait utiliser en fait son portable sur deux trois fonctions, mais en revanche, ils ne le savent pas en fait sur le reste. Alors
moi, je suis absolument pas d'accord avec vous.
Dis donc, j'ai eu un mauvais point là.
Je te dis pas ça le bonnet d'âne là. Tu vas recopier 10 fois, j'apprendrai le codage numérique. Non mais alors vous allez m'en coller un aussi parce que je trouve ça complètement fou qu'on puisse envisager, je veux dire, de supprimer le dessin, la musique, mais c'est pas le problème, enfin quand
mais
même.
Est-ce que vous
les
savez
sciences
ce que
humaines,
font,
c'est.
Est-ce que vous savez écoutez, ce que font les. Mais non, Françoise de Bois,
est-ce que je peux finir une phrase? Vous ne me répondez pas.
Est-ce que vous savez ce qu'ils font aujourd'hui en dessin et en musique, la plupart des élèves collégiens?
Mais qu'est-ce que c'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je sais que j'ai des amis qui ont des enfants qui ont été au conservatoire grâce à ça.
Mais
arrêtez de nier.
Qu'est-ce qu'il faut, Patrick? Répondez à votre question.
Excusez-moi de vous le dire, mais les sciences humaines, on va pas passer notre vie à être dans la science dure. Enfin, entre ceux qui veulent supprimer le grec, le latin, maintenant le dessin, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va apprendre à 4 ans qu'est-ce que c'est qu'un PIB et le codage numérique. Il faut quand même à un moment donné ouvrir les cœurs.
Le dessin, ce n'est pas à 4 ans. Le dessin, évidemment, qu'on peut le maintenir en école primaire. Mais il y a une véritable réflexion, je pense, quand même, à faire autour de ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours en proposer, mais peut-être dans cette manière. Non, mais je pense qu'il y a une vraie, véritable, en fait,
réforme. Oui, pensez qu'on est dans le temps. Oui, d'accord.
Supprimez pas
la musique, soyez sympa.
Pardon, initiez les enfants.
En cours, parce qu'on n'en fait pas.
Initiez les enfants à l'histoire de l'art, à l'histoire qui est aussi l'histoire de l'Occident.
De l'Orient aussi.
Et franchement, je veux dire, c'est aussi notre histoire.
Bien sûr.
C'est très important.
Allez, on refera un débat sur l'éducation.
Ah non, mais c'est fondamental. On est d'accord en plus, Elisabeth et moi, ça craint.
Mais fondamental d'apprendre en fait des choses où véritablement il y a du contenu.
Ça c'est que vous dites. Il joue pas de la flûte. On compte de musique.
Allez, Pipon, dans un instant, c'est Eric Revel, Revel en campagne, et on va revenir aussi sur la Russie. Et puis si vous voulez réagir sur toute l'actualité, que ce soit sur l'éducation nationale, comme on dit en fait à l'instant, alors sur la question aussi des parrainages, avec Marine Le Pen qui a décidé de suspendre sa campagne. Est-ce que vous estimez qu'elle a raison ou pas? On vote sur les réseaux sociaux et surtout vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis les sanctions sur la Russie, sur Poutine, est-ce que vous avez le sentiment que ça va vraiment faire reculer le chef du Kremlin? Là aussi vous nous appelez.
À tout de suite, il est 8h59.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h05 et tout de suite, Revel en campagne.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Bonjour Eric Revel, bienvenue.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors Eric, vous m'entendez bien ?
Absolument.
Bon, alors Eric, nous allons parler évidemment de la situation avec l'Ukraine et le revers diplomatique pour Emmanuel Macron, notamment dans la crise ukrainienne qui est marquant. Comment rebondir et annoncer sa candidature? Parce que le timing est serré et le temps est compté pour le président.
Ah oui, ça devient vraiment un vrai casse-tête, je pense. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, et je pense que du côté de l'Élysée, on ne les prend pas à la légère. Je ne sais pas si vous avez vu, le journal Le Monde parle de l'affront diplomatique infligé par Poutine à Macron. Alors, avec un tel revers, vous avez raison, quelle est la fenêtre de tir pour entrer en campagne? Ces questions, évidemment, se bousculent à quelques semaines de l'élection présidentielle. En plus, si vous vous souvenez bien, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il n'entrerait en campagne que lorsque le pic de la crise ukrainienne serait passé. Or, on constate quoi? On constate que d'heure en heure, en tout cas si on en croit les déclarations alarmistes de Poutine, d'heure en heure, cette crise atteint sans cesse de nouveaux sommets. Donc le pic de la crise ukrainienne n'est pas derrière nous, donc Macron ne peut pas entrer en campagne.
Oui, et si la crise en Ukraine dégénère, est-ce que Emmanuel Macron peut être candidat sans faire campagne, faire fi de son expérience, etc., en pleine tempête, quoi?
Bah, si la Russie envahit l'Ukraine, Patrick, et qu'une guerre menace vraiment les portes de l'Europe, hein, il y a les gesticulations, les moulinets de Poutine, même s'il fait peur, mais enfin, il faut quand même voir. Bah, vous avez raison, on voit mal le chef de l'État trouver le trou de souris médiatique pour développer même un programme en vue de sa réélection. Ce serait complètement à contre-temps, et on aurait le sentiment, si les choses empirent à l'Est, qu'il préfère la politique française à la paix dans le monde, enfin, si je suis un peu grandiloquent.
Oui.
Mais, d'un autre côté, si la situation dégénérait vraiment militairement en Ukraine, les Français l'ont montré dans le passé, ils ont plutôt le réflexe de laisser les clés de l'Élysée ou à celui qui est en poste, qui est aux manettes depuis 5 ans, plutôt qu'à un novice qui débarquerait en pleine crise. Donc cette élection présidentielle, marquée par la radicalité politique, est aussi totalement atypique au vu du contexte international.
Ouais. Personne ne peut imaginer qu'il ne soit pas candidat, même si la période est trouble et complexe. Hein.
Alors, vous avez raison, la période, elle est à toutes les supputations, mais du coup, certains se rappellent de propos qui résonnent étrangement. Vous en souvenez ? C'était aussi de brut. On était en 2020, Emmanuel Macron avait tenu des propos mystérieux. Alors, peut-être un peu, retenez-moi où je fais un malheur, mais quand même, Emmanuel Macron avait évoqué des circonstances qui rendraient impossible le fait qu'il puisse être candidat, je ferme les guillemets. Bon, c'est la politique fiction, mais François Hollande avait renoncé finalement à se représenté pour d'autres motifs. Alors c'est vrai, Emmanuel Macron caracole en tête des sondages, mais avec la crise ukrainienne, il est peut-être condamné à être président jusqu'au bout, si la crise dégénère, au risque de ne jamais être candidat si les circonstances l'exigeaient, ou alors dans une sorte de blitzkrieg. Cette campagne présidentielle atypique, je le disais, laisse la place à toutes les supputations de politique fiction, et on peut en faire autour d'analyses qui se tiennent.
Ouais.
Cette élection présidentielle, alors que le pays est traversé par des tensions internes dans un contexte international dangereux, cette élection présidentielle, je le crois, Patrick, peut réserver encore bien des surprises.
Ah bah est-ce qu'elle peut réserver des surprises en fait à ce moment-là, Françoise de Gouin.
Je suis, moi qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui, je suis en accord avec Éric Revel et Elisabeth Lévy. Alors c'est vous dire si cette présidentielle nous tourne boule quand même la tête. Non, blague à part, je suis d'accord avec Éric Revel, je pense qu'on n'a encore rien vu. Je pense que c'est pas simplement le fait qu'il reste 5 semaines, c'est très long. À la vitesse où vont les choses, parce que c'est de la conduite sur verglas, on voit bien... Vous savez, il y a 3 personnes là pour le second tour. Oui. Est-ce que Macron a Emmanuel Macron...
Il y en a plus que ça.
Non, 3 pour le second tour. Si on considère que la place de Macron est comment dirais-je, sanctuarisée pour le second tour, il est en tête.
Il y a 4 personnes.
Non, il y en a 3 plus peut-être Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour Marine Le Pen.
C'est pour ça que je dis que le cauchemar des sondeurs commence. J'en discutais hier avec les amis de l'IFOP en disant si ça continue comme ça, on va être à 4 personnes pour le second tour, 4 candidats potentiels, Pécresse, Le Pen, Zemmour et Mélenchon, avec la difficulté de les départager dans un mouchoir de poche. Donc, je crois que... Et puis, l'idée de est-ce que Emmanuel Macron est candidat, c'est vrai que tout le monde la balaye en disant c'est évident, attendons le moment où il le fera. Comme on est dans le coup de théâtre permanent dans cette élection, pardon, mais...
Arrêtez de vous raconter des histoires.
Peut-être qu'on rêve notre vie.
Elisabeth.
Pardon. Ouais. Évidemment qu'Emmanuel Macron sera candidat, et du reste, comme l'a dit Eric, la crise internationale va plutôt lui donner des ailes que l'inverse, à mon avis, c'est-à-dire effectivement jouer de sa stature, même si il a su bien camoufler, mais là je l'accablerai pas sur ce coup-là, si vous voulez, je suis pas sûr qu'on puisse lui reprocher que Poutine se soit moqué de lui, ce qui est le cas. Non, mais moi ce que je trouve en fait, c'est que cette campagne qui nous était annoncée comme morne pleine, on sait que le deuxième tour ça va être Le Pen Macron, on sait que Macron va gagner après le deuxième tour, bah finalement il y a au moins ça, c'est qu'on s'ennuie pas.
Oui.
Voilà. Je pense que d'un côté il y a Éric Zemmour qui a quand même il a mis de la vivacité, il a mis de la hauteur dans le débat. Après, on peut détester ses idées, mais au moins il les a mises sur la table. Et si vous voulez, on a été obligé de s'emparer de ces sujets. Il y a, comme l'a rappelé Françoise, 4 candidats touche-touche. Pour le deuxième tour, la remontada de Jean-Luc Mélenchon, peut-être, alors qu'il est... Bon, on n'en sait rien.
Ouais.
Si vous voulez, parce qu'il y a deux Mélenchon. Alors, si vous voulez, moi, j'oublie jamais quand je vois le bon Mélenchon des meetings, qu'il y a le Mélenchon odieux, méprisant, cassant de toutes ces émissions où il traite les gens, vraiment, c'est honteux. C'est vraiment une honte. Donc je ne l'oublie et qu'il y a le Mélenchon woke, ça je ne l'oublie jamais.
Mais ce que disait Eric et qui est toujours avec nous.
Absolument.
Et Eric, ce que vous sous-entendiez, c'est que Emmanuel Macron peut être bien sûr candidat, mais sans faire véritablement de campagne, sinon en fait une campagne éclair, quoi. J'allais dire une campagne de Russie.
Oui. Alors on peut même imaginer qu'il soit réélu sans avoir fait ni campagne, alors en se déclarant candidat,
bien sûr.
Il peut très bien le faire la veille. Si les circonstances sont dramatiques, s'il veut incarner, comme disait Françoise, cette stature de chef d'État derrière laquelle il court, à mon avis, depuis le début de son quinquennat, peut-être que même là, dans la difficulté, avec l'affront, le camouflet, la gifle que Poutine vient de lui mettre au coin du museau, peut-être qu'il a cette possibilité de faire grandir sa stature. Et du coup, il n'a pas besoin de faire campagne. Il peut juste dire, les circonstances sont dramatiques en Europe, je suis le président de la République, j'ai les manettes en main, je ne vous lâcherai pas, tiens, je ne vous lâcherai pas.
Oui. Je ne les lâcherai pas, ces manettes.
Et ça peut marcher, parce que, rappelez-vous que, historiquement, quand le pays a passé des moments très difficiles, de guerre ou pas, souvent, celui qui est en place, même s'il n'est pas aimé, ou même s'il n'est pas souhaité par certains, et ben en fait, les Français ont le réflexe de la prudence. De il est en place, il connaît mieux que celui qui arriverait. Et ça peut jouer en sa faveur.
Oui.
Enfin, quand même, je vous rappelle que François Hollande, qui a été le président des attentats, si vous voulez, est parti de façon assez piteuse. Oui. Juste, Patrick, je voulais vous dire votre comparaison, faites attention, parce que la campagne de Russie, vous savez que ça se termine par la Bérésina.
Non, mais bien sûr, ça s'arrête là.
Oui,
0826 300 300. Oui.
Avec Christian qui nous appelle des Pyrénées. Bonjour Christian.
Bonjour Christian. Oui.
Eh bien écoutez, bonjour à tout le monde.
Bonjour
oui.
Christian.
Bonjour. Voilà, bonjour. Donc je voulais juste m'exprimer sur l'Ukraine en fait.
Rapidement,
j'ai un petit conseil pour Macron. S'il veut risquer absolument rien, il a qu'à pas se présenter, il sera tranquille. Et nous aussi. Donc pour l'Ukraine, j'écoute depuis le début, je lis pas mal de choses.
Ouais.
En fait, l'Ukraine, tout simplement, c'est parce que il faudrait revenir aux bases, parce que les gens sont perdus. Hein.
Mm.
C'est l'OTAN, on est bien d'accord.
Mm-hmm.
Hein, Vladimir Poutine ne veut pas qu'on s'installe dans ses environs. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est ça, exactement.
Ouais. C'est ça.
Quelle est cette enfin vous le savez comme moi, vous êtes journaliste, vous êtes souvent meilleur que moi. On est en train de monter en épingle une guerre. Vous avez vu les titres de journaux. Mmh. Ça me fait penser à Macron quand il a fait sa truc avant les élections. Il était en guerre. Ben, il est toujours en guerre. Enfin le type, le Covid, la guerre. Bon, j'ai un problème avec ça, c'est que dans l'information, on est en train d'essayer d'absolument de porter ça sur Poutine. Le mec il dira non, hein, vous le savez comme moi. Hein. De toute façon, c'est niette, comme ça qu'on dit. Hein,
ouais.
Donc c'est non. Et puis on fera tout ce qu'on veut au niveau des journaux et du reste. Le type il baissera pas les bras parce qu'on sait très bien que c'est pas nous, les Européens, qui est le plus important dans le coup. C'est dirigé par un gars qui est aux États-Unis. Je pense que vous avez des très très bons journalistes sur votre plateau et ils en déduiront, à mon avis, ce que je pense, c'est que on est en train de se traîner un boulet. On est content, on a de l'info, c'est plus le Covid, maintenant c'est l'Ukraine. Alors c'est malheureux effectivement qu'il y ait des choses comme ça, mais restons quand même sains sur le système, je suppose. On veut mettre l'OTAN, sachant que je crois que Macron il y a un moment il voulait sortir de l'OTAN, je crois, non?
Bon, il disait surtout que c'était en état de mort cérébrale,
ouais.
Quoi, l'OTAN.
Ouais, mais là ça l'arrange un peu mieux, je trouve. Hein.
Ouais,
bon,
ouais.
Enfin, c'est pas pour ça. Enfin, ouais. En fait, faites attention, je suis pas sûr qu'il va se présenter. On sait jamais.
On peut prendre ses désirs pour des réalités. Hein. Bah, moi-même, je lutte contre ça.
À mon âge, j'ai encore des désirs et je suis content.
Ouais, ouais. Non, mais oui. Alors, s'il ne se présentait pas, vous imaginez, il n'y aurait personne d'autre qui se présenterait dans l'actuelle majorité, quoi.
Ce serait un cataclysme.
Parce qu'il n'y a pas eu de candidature, donc... Non, je pense que non. En revanche, qu'il n'annonce pas sa candidature immédiatement, parce que c'est pas... Même s'il a officiellement les candidatures le 4 mars, après, il n'est pas obligé de dire immédiatement voilà, je suis candidat, etc. Même
non,
si
mais
on le force.
Vous vous rendez compte quand même que à un moment donné, bon, il fuit le débat, c'est évident, parce que sous ses airs un peu de matamor, Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un d'aussi assuré que cela sur le plan pur de sa psyché. C'est clairement, je comprends très bien qu'il veuille pas s'enlever le bouclier élyséen, mais la réalité, c'est que le piège aussi, c'est de donner le sentiment qu'on fait une campagne par-dessus la jambe, que c'est une simple formalité. Vous savez, depuis qu'il gouverne, Emmanuel Macron considère tout type d'élection comme une formalité. C'était déjà le cas pour les municipales, c'est tellement une formalité qu'il n'y a aucune information pour s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est la première fois que ça existe dans l'histoire de la présidentielle et de la cinquième, qu'il n'y ait pas d'information pour inciter les gens
si
à aller voter.
J'ai reçu un truc hier, moi.
Oui, mais d'informations de spot, aller voter, etc. Il n'y a rien de cette nature-là de campagne massive.
C'est
un problème. Ça veut dire
que dénonçait ce matin un éditeur qui était
Ça veut dire que, en gros, Emmanuel Macron a enjambé les européennes avec le grand débat. Ouais. Souvenez-vous, c'est sa grande stratégie. Il a enjambé avec la pandémie, les municipales, les régionales, et il s'apprête à enjamber la présidentielle avec l'Ukraine. C'est un enjambeur. Tiens, je viens d'inventer ça. C'est pas un jambon, c'est un enjambeur. Ouais. Et je trouve que il y a quelque
c'est
chose.
Nous les jambons.
Il y a quelque chose par-dessus la jambe. Et moi, je peux pas imaginer une minute que les Français accepteront ça.
On verra ça aussi dans quelques jours, probablement avec l'annonce ou pas de sa candidature. Enfin, il y aura sa candidature, mais après, quand est-ce qu'il l'annoncera et comment ensuite il la fera vivre, ça, c'est autre chose. Évidemment, sur Sud Radio, on la fera vivre. Dans un instant, parce que ça reste... Donc, sur l'Ukraine, la Russie, on vous dira tout. Hein. Restez bien avec nous pour tout savoir avec notre invité tout à l'heure, Alexandre...
Jevakov.
Voilà, c'est ça.
Qui est un ancien conseiller ministériel et membre de l'Union de la noblesse russe.
Voilà, c'est ça. Et qui a écrit plusieurs ouvrages autour de la Russie, et il va tout nous dire. On va remonter et on va refaire un petit peu l'histoire avec lui. Ce sera particulièrement intéressant. Je pense qu'il y en a besoin dans la vérité en face. Mais dans un instant, on va revenir sur un des sujets du moment qui reste très fort. C'est les parrainages. Oui. Bien sûr, et avec la suspension de sa campagne par Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort ? Eh bien, vous avez la parole. 0826-300-300.
Absolument. Restez avec nous, 9h19.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h21, la suite des grands débats avec toujours Éric Revel, Françoise Degoy, vos appels 0826-300-300. On va revenir sur les parrainages, puisque Marine Le Pen a décidé de suspendre sa campagne tant qu'elle n'aurait pas ses parrainages. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution ? C'est la question du jour. Ou plutôt non, ou sans avis ? Vous dites que c'est une bonne solution à 63%. Et Jean-Yves nous dit qu'elle ne devrait pas avoir à le faire. Les maires et les conseillers généraux ont un devoir citoyen de parrainage. Et je rebondis sur ce que disait... Stéphane Le Foll qui pointait plutôt la responsabilité des candidats plutôt que les maires.
Il disait avant de se lancer, il faut bien vérifier qu'on aura éventuellement les 500.
Il est un peu gonflé. Franchement, il est vraiment gonflé, Stéphane Le Foll, avec toute la sympathie que je peux avoir pour lui, mais vraiment il est gonflé. Parce qu'il connaît très bien le fonctionnement. Il sait parfaitement, parce que c'est une de ses idées, la levée de l'anonymat en 2016. Pourquoi est-ce que François Hollande fait lever l'anonymat ? C'est pour empêcher Marine Le Pen et accessoirement Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir leur parrainage. Donc, Stéphane Le Foll, qui participe à l'époque, il est ministre, qui est un apparatchik comme rarement on en a connu.
Qui était porte-parole du gouvernement,
que je connais très bien et que j'apprécie énormément. Il ne peut pas arriver, minauder chez nous le matin en disant, là, c'est la faute des candidats. Non, il sait très bien ce qui se passe localement. Il sait très bien que quand vous êtes un baron socialiste, ou vous êtes un baron les républicains, il sait très bien qu'à un moment donné, si vous avez vent d'un petit maire qui veut donner son parrainage ou à Zemmour ou à Le Pen, ou bien à Jean-Luc Mélenchon ou Christiane Taubira, vous vissez, vous fermez le robinet. Si Stéphane Le Foll est capable de nous regarder droit dans les yeux, de dire « je n'ai jamais fait ça, c'est la faute des candidats », c'est faux. Et le problème est là, c'est que c'est un dysfonctionnement démocratique total. Mmh. Il y a des maires qui le disent clairement, et en plus ils ne le disent pas parce qu'ils veulent glisser, qu'il y a des chantages aux subventions, avec les grands partis qui sont encore extrêmement présents localement dans les territoires, c'est-à-dire la droite et la gauche. Donc Stéphane Le Foll, j'ai entendu son discours, mais je crois que ça n'est pas vrai.
Alors, qu'en pense le standard 0826 300 300 avec Leïla qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour, Leïla.
Bonjour, Leïla.
Leïla, vous êtes avec nous?
Oui.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Alors voilà, je m'interroge. Alors je suis maman de deux enfants et je suis vraiment très inquiète à propos de ce qui se passe actuellement, éventuellement de notre démocratie, la démocratie de notre belle nation.
Oui.
Alors j'ai été par souci justement de l'avenir de nos enfants, voir qu'est-ce que mon maire a parrainé, puisque maintenant c'est public. Hein.
Mm-hmm. Oui.
Donc mon maire particulièrement n'a parrainé personne pour l'instant. Et j'ai été voir la ville de mes parents. Et là je suis surprise. À Coulommiers dans le 77 en Seine-et-Marne, la mairesse a parrainé Monsieur Macron. Alors ma question est, comment des maires, et j'ai vu que dans les alentours il a eu 1493 parrainages, comment quelqu'un peut être parrainé sans être candidat, du moins officiellement? On sait tous qu'il va être candidat, enfin je suppose, hein, enfin c'est que des suppositions, mais il n'a rien déclaré. Donc pour moi, citoyenne, aujourd'hui, Macron est en train de faire la candidature avec le chéquier de notre argent public.
Ouais.
Et avoir des parrainages, donc des maires qui se déclarent, ben, ils s'en cachent même plus.
Mmh. Ah, ils sont obligés de le déclarer. C'est pas qu'ils s'en cachent pas, mais c'est qu'ils sont obligés parce que c'est là le.
Non, mais ce que dit Leïla, effectivement.
Oui, mais Patrick Vignal, oui. J'en ai parlé avec lui hier.
Député
de la République En Marche, pour vous répondre, Leïla. Il avait donné son parrainage à Emmanuel Macron et aujourd'hui, il le regrette, en fait. Il est exactement. S'il avait été dans cette position, lui, il aurait donné son parrainage ou à Taubira ou à Mélenchon, plutôt sa famille d'origine, vous voyez. Et il disait hier très clairement, je regrette en fait d'avoir donné à un candidat qui croule sous les parrainages,
bah oui.
Alors qu'on a besoin
de diversité.
Et il était très. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée de Bayrou est quand même excellente, de la banque où il récolte un volant de signatures, parce que. Pour certains maires, ça va être quand même assez compliqué de parrainer Éric Zemmour qui défend la mémoire du maréchal Pétain. Non, mais vous comprenez qu'aussi, il y a un problème,
il y a un problème
moral.
Il en a parlé en disant, excusez-moi, je vous ai coupé. Il en a parlé en disant qu'il y a eu un maire qui lui a donné officiellement son parrainage et qu'il a été menacé de ne pas avoir de subvention. Mais où sommes-nous? Est-ce que nous sommes toujours en France? Je vous pose la question, vous, journaliste, que je vous suis souvent et que vous êtes impartiaux. Où sommes-nous?
Il faut qu'on change ce système.
Non,
c'est
vrai,
évident.
Il faut revoir le système. Hier, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, Leïla, nous avions un professeur de droit constitutionnel qui a écrit un manifeste pour revoir un petit peu la démocratie. Il appelle ça la démocratie continue. Et il disait notamment que lui, il était contre ce système de parrainage et il était pour un nouveau système avec des citoyens. C'est-à-dire
Absolument.
Qu'il faudrait atteindre 150 000 signatures. Mais 150 000 signatures en plus d'une trentaine ou d'une cinquantaine de départements différents, pour ne pas que ce
Super.
Soit en fait aussi quelque chose
de... C'est ce que je pense que M. Philippot avait proposé également. Malheureusement, il n'est plus candidat.
Oui, mais on peut panacher aussi, on peut avoir des
Bien
élus.
Sûr, on peut faire...
Je crois que l'idée, vraiment, c'est qu'on ne peut pas... Écoutez, moi, je crois que la République française et la nation française, elle est assez forte, solide sur ses valeurs, elle est suffisamment solide, contrairement à ce qu'on croit, pour pouvoir englober l'ensemble de candidats.
C'est ce que
je crois.
Éric Revel, est-ce que vous pensez que elle a raison, Marine Le Pen, de suspendre, ou est-ce qu'il y a en fait aussi derrière tout cela de la com ou pas, ou c'est sincère?
Non, moi je crois pas. Je crois qu'il y a un vrai affolement au Rassemblement National pour une raison très simple. Mmh. C'est que vous avez deux candidats qui sont à peu près.
Trois
sur
même
le même
Vous avez vu que Dupont-Aignan a ses parrainages.
Attendez, Françoise, si je peux me permettre.
Oui,
vous avez
terminé.
Deux candidats qui sont sur le même terrain, c'est-à-dire le terrain du, nationale, c'est-à-dire Zemmour et Le Pen. Et donc, en fait, c'est pas comme les petits pains, ils n'ont pas multiplié la possibilité d'avoir des parrainages. Je pense qu'il y a un vrai danger. Mais attention, d'abord, j'aurais dire hein, que les propos de Stéphane Le Foll sont indignes. C'est de la politique politicienne, politicard dont on veut plus. Il a mis en place un système et il s'étonne que les gens n'aient pas leur parrainage. Mais là, les socialistes, on parle plus de défendre la démocratie. Là, hein, c'est autre chose. Alors que c'est lui qui a effectivement inspiré ça à François Hollande, la levée de l'anonymat des parrainages des maires. Bon, je ferme la parenthèse, parce que ça m'a mis en rogue. Mais où il y a peut-être un mauvais calcul, quand même, de la part d'Emmanuel Macron, c'est que si l'un des deux candidats nationaux, comme on dit, Le Pen et Zemmour, n'a pas ses parrainages, ben, ce qui risque de se passer, c'est qu'au premier tour, celui qui les aura, ou de Le Pen ou de Zemmour, sera en tête du premier tour. Parce que vous avez eu la création d'un réservoir de vote avec cette candidature Zemmour qui n'existait pas. Là où le vote national faisait 27-28, maintenant on est plutôt à 32-33. Donc ça veut dire qu'avec un étiage de 30, s'il y a un seul des deux candidats qui s'en sort et qui a des parrainages, ce qui serait illogique et qui serait pas du tout à mon sens à l'honneur de la démocratie française, mais en tout cas, ça permettrait, et ça ce serait quand même la grande nouveauté, d'avoir le candidat du camp national en tête du premier tour devant Emmanuel Macron.
Très largement, surtout. Très donc largement, ça, avec des scores supérieurs à Sarkozy en 2007. Donc, ce qui fait qu'une capacité d'entraînement et de dynamique incroyable pour le second tour. Non, mais voilà.
Exactement.
Ça s'appelle vraiment jouer avec le feu.
Exactement.
Enfin, pour moi, c'est le feu.
On
pour
va suivre,
ça l'est
en
pas.
Tout cas, ce feuilleton. Et donc, on rappelle que la date limite pour le dépôt de ces parrainages, c'est le 4 mars.
Vous n'avez pas parrainé,
c'est-à-dire la semaine. Non, je n'ai pas encore parrainé.
Moi, je parraine Cécile de Ménibus.
Voilà,
vous avez raison. J'ai du goût, Françoise Degois.
Merci de tous vos appels et vous pouvez continuer d'appeler dans un instant si vous voulez, si vous avez du mal à comprendre les choses sur l'Ukraine, sur la Russie, sur la volonté de
sur
la fermeté, la volonté et la fermeté aussi de Poutine. Pourquoi il a cette stratégie? Eh bien, on va tout vous dire dans un instant avec un invité, Alexandre Jevakov, qui sera avec nous. Et donc là, c'est l'occasion. On s'arrête pendant une demi-heure dans La Vérité en Face. Donc c'est l'occasion de poser vos questions.
Et de comprendre.
Et surtout, il n'y a jamais de mauvaises questions, en fait. Là, je vous le redis, les questions parfois les plus naïves sont les questions les plus sensées.
Et parfois, on n'ose pas les poser, on est bien content que ce soit les autres qui les posent.
Il y en a un qui est allé poser ses valises du côté du Florida à Toulouse, c'est André Berkoff.
Eh oui.
Bonjour André.
Bonjour André.
Bonjour à vous tous et à vous toutes.
Bon, place André, du Capitole. Place du Capitole, donc on pourra aller prendre, à défaut d'un apéro, au moins un café ou une boisson avec vous ce midi, quoi, hein, pour les auditeurs, quoi, c'est ça.
Tout à fait, tout à fait. Ils respireront l'odeur du cassoulet quand même, on leur aura, vous savez que Sud Radio est une radio auditive, donc elle fait tout passer.
Oui, voilà, c'est ça. Donc avec vous, midi, 14h, c'est vos déplacements, hein, la France dans tous ses états, et donc tout à l'heure à Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a au menu, si je puis dire, de ce midi, 14h?
Patrick, beaucoup, beaucoup d'invités, beaucoup de gens, alors c'est très intéressant qui se sont, qui ont répondu à l'appel, c'est qu'on a fait pour le 0826-300-300, hier, avant-hier et aujourd'hui encore. Et on a, ça va de quelqu'un qui a nous parlé de ce qui se passe à l'hôpital, dans les hôpitaux à Toulouse, et sur la justice, les tribunaux, il y a pas mal de problèmes. Et quelqu'un, alors c'est très intéressant, parce que vraiment, on l'a eu son parcours, elle a été ingénieure aéronautique à Toulouse, elle est devenue danseuse orientale.
C'est
pas mal, hein. Voilà. Et on va parler aussi du référendum d'initiative citoyenne, de l'abstention, bien sûr. Vous venez de parler des parrainages et tout ça, et les gens sont très, très, très concernés par ça, et on va avoir là. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, nous allons avoir quelqu'un que vous connaissez, et que tous les auditeurs de Sud Radio connaissent, Ivan Cugius, qui sera avec le chanteur de Zepta, Magid Cherfi, et qui vont nous finir comme ça, c'est le Toulousain de chez Toulouse, et on va finir en fanfare et en concert.
C'est un petit bœuf, quoi.
Un petit bœuf, avec Ivan Cugius du Loft Musique sur Sud Radio.
Bon, on vous retrouve tout à l'heure, André, midi 14h, Florida,
le patron
à Toulouse.
Du Capitole,
on remercie
André.
D'ailleurs le Florida de nous accueillir. Je rappelle que pendant évidemment toute cette campagne électorale, nous serons sur le terrain. Vous d'abord, André, le premier, parce que vous avez montré l'exemple, hein. Philippe David également, et la matinale, bien sûr, nous retournerons sur le terrain. Christine Bouillot sera aussi avec vous et toutes les équipes.
Allez, nous, absolument.
Allez, fraises pour André Berkoff.
Voilà,
c'est envoyé.
C'est ça.
À tout à l'heure, André.
Pas trop de fraises. pas trop de lait non plus.
Donc, ne le tentez pas, Patrick.
Vous lui donnerez un daiquiri avec modération, tout de même.
Allez, à tout à l'heure et bonne émission. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio dans un instant. Les présidentielles 2022, la vérité en face. Russie, France, est-ce la fin de la diplomatie? On en parle dans un instant.